après le vote de l'Assemblée nationale, après ses propos sur l'envoi des troupes au sol, le chef de l'État doit donc s'exprimer, ce sera demain soir. La réponse de président Macron à Vladimir Poutine, ce sera suivi bien sûr à partir de 20h10 sur BFM TV avec une émission spéciale. Et ensuite, comme on dit, le débrief, mais le président Poutine, qui doit être réélu dans un fauteuil le week-end prochain, a tenu lui aussi à dire deux, trois petites choses qui sont, comme on dit, bien senties.
Du point de vue technique, bien sûr, nous sommes prêts. Premièrement, les missiles sont constamment prêts au combat. Deuxièmement, notre armement nucléaire, notre triade, est plus moderne que toutes les autres. Quant aux pays qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge à l'égard de la Russie, ils doivent comprendre que la Russie n'aura pas non plus de ligne rouge à l'égard de ces pays.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour débattre avec Alain Duhamel. Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
C'est au président Macron de baisser un peu le ton, de calmer le jeu demain soir?
Je dirais que demain soir, il va devoir se livrer à un exercice qui est à la fois nécessaire et difficile. Nécessaire parce qu'effectivement, après les propos qu'il a tenus, après les propos aussi qu'on lui a prêtés, à la fois, il y a en France une grande inquiétude d'une partie importante de la population, bah, notamment où est-ce que ça va nous mener, est-ce que nos enfants risquent d'eux, etc. Et sur le plan européen aussi. Donc c'est nécessaire, bien sûr qu'il faut réagir. En même temps, c'est très difficile parce que ce qu'on lui demande, c'est de clarifier une ambiguïté. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est quelque chose qui n'est justement pas fait pour être clarifié. Autrement, ça n'est plus de l'ambiguïté. Donc ça va être quand même un exercice pas commode. En même temps, il est possible, dans la mesure où, d'une part, on vient de le voir, à Moscou, ils en rajoutent des tonnes. Parce que Vladimir Poutine, en plus... il a expliqué que leur armement maintenant était nettement supérieur à celui des États-Unis, qu'au fond c'était eux les rois du nucléaire, que déjà dans l'espace ils avaient une avance. Enfin, bon, du coup les propos sur est-ce qu'éventuellement on pourrait envisager d'envoyer un peu d'infanterie à un moment donné, ça paraît presque dérisoire par rapport à ce qu'il dit. Bon, et puis le vote a eu lieu. À l'Assemblée nationale, et au bout du compte, ça a été un vote très large. Donc, c'est, si j'ose dire, plus facile, surtout si c'est sous la forme d'une déclaration. Si c'est sous la forme d'une interview, tout dérapage est imaginable. Si c'est sous la forme d'une déclaration, disons que ça me paraîtrait mieux adapté.
Jean-Pierre Raffarin, il faut calmer le jeu avec la Russie.
Moi, je pense qu'il faut en tout cas calmer le jeu sur la communication. Je pense qu'il ne faut pas, sur ces sujets, trop parler, puisque, quelle que soit l'issue, que ce soit une confrontation ou une négociation, il nous faut faire tout un travail diplomatique avant. Il nous faut l'accord des Allemands sur cette stratégie. Il nous faut probablement l'accord des Anglais. Il faut discuter aussi avec les Américains. On ne va pas affronter Poutine sans être avec nos alliés. Donc tout ceci, ça doit faire partie de certaines négociations, alors que c'est très difficile avec les États-Unis, où on a deux présidents en lice pour le moment. Donc on voit bien que les choses sont complexes et qu'aujourd'hui, plus on parle, plus on se met en difficulté par rapport à ces publics. D'autre part, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alain Duhamel, il va falloir quand même rassurer un peu l'opinion publique. Je comprends la déclaration du président, parce qu'il fallait alerter sur la gravité de la situation.
Ah, alors, qui inquiète aujourd'hui pour rassurer l'opinion publique? C'est le président de la République
ou
c'est la
situation qui est grave? Il fallait aujourd'hui que le président alerte l'opinion publique. Personne n'avait conscience suffisamment que la guerre en Ukraine était quelque chose qui nous concerne très directement. Le peuple ukrainien est la première victime, mais la deuxième victime de cette guerre, peut-être l'Union européenne. Le président devait lancer cette alerte. Mais évidemment, on se trouve dans une situation qui est aujourd'hui une impasse. La victoire militaire de l'Ukraine est très improbable. La victoire politique de Poutine est inacceptable. Nous sommes dans une situation qui est une situation extraordinairement difficile. Donc, de toute façon, il faut distinguer ce qu'on doit dire aux Français. Il les a alertés. Maintenant, il faut qu'ils puissent avoir un discours raisonnable et responsable de manière à ce qu'on n'enflamme pas la situation. Et d'autre part, il est très important d'avoir dans le travail diplomatique cette alliance nécessaire pour affronter Poutine ne serait-ce que pour la négociation, mais évidemment pour la confrontation si elle est nécessaire.
Dans les oppositions, ce qui reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas évoquer l'idée de négociation. Alors qu'au départ, Emmanuel Macron était celui qui était le plus...
Il est le dernier...
Convaincu qu'il fallait négocier.
Il est le dernier des dirigeants occidentaux à avoir cherché à maintenir un fil de discussion, voilà, en espérant que peut-être, ça pourrait déboucher sur une désescalade. Mais là, un problème supplémentaire, c'est que Emmanuel Macron, à la fois, il n'est pas question d'escalade, et ça ne sera sûrement pas ça demain, mais il ne faut pas non plus que ce soit un sentiment de retrait, d'excuse.
Oui, un demi-tour.
Et par-dessus le marché, il faut à la fois, évidemment, Jean-Pierre Raffarin le disait, se concerter avec nos alliés, et en gros, si on veut faire une déclaration un peu fracassante, les prévenir à l'avance, voire se mettre d'accord avec eux. Et simultanément, la France tient par-dessus tout, parce que c'est une puissance nucléaire, mais en même temps une puissance moyenne, à sa spécificité. Donc il faut qu'on soit nous-mêmes, tout en s'entendant bien avec nos alliés, qu'on impressionne un peu les Russes, tout en ne donnant pas le sentiment qu'on cherche une escalade, et que on est solidaire de l'Ukraine, mais que à terme, il faudra bien, s'il ne peut pas y avoir de vainqueur, ce qui serait...
Négocier.
S'il ne peut pas y avoir de vainqueur, la seule chose, c'est que pour négocier, un, il faut que les deux protagonistes l'acceptent. Bon, pour l'instant, aucun des deux n'en parle et ne le laisse percer d'aucune manière. Bon, dans 6 mois, ça peut être différent, mais il faut que les deux l'acceptent. Et il faut qu'il y ait un intermédiaire légitime pour le faire. Alors, un intermédiaire légitime, c'est pas le pape, hein, ça c'est bien clair.
Ni la Turquie.
Ni la Turquie, mais bien entendu.
Qui, alors ?
Et non, ça peut pas être les Nations Unies, puisque les Russes et nous sommes au Conseil de sécurité.
En permanent.
Ouais. Non, on voit bien que là, de toute façon, que nous sommes dans une situation qui est une situation dans laquelle on a besoin d'un accord et d'un rapport de force. En fait, que l'on aille à la négociation ou qu'on aille à la confrontation, d'abord, il faut constituer le rapport de force. On va pas à un rapport de force avec Poutine sans avoir nous-mêmes montré, au moins, d'abord dans un premier temps, qu'il y a un accord sérieux avec les Allemands. Tant qu'on est divisé avec les Allemands, la force...
Le couple franco-allemand bat de l'aile en ce moment.
Il bat de l'aile. Et donc,
vous le regrettez ?
Mais je le regrette, car c'est là où est notre force. Quand la France et l'Allemagne ne sont pas ensemble, l'Europe est fragile. Donc il faut avoir bien conscience de ça. On a déjà perdu la puissance britannique qui, sur le plan militaire, existe avec le Brexit. On peut encore avoir sur ces sujets-là un partenariat, parce que nous avons les accords français et Grande-Bretagne, Lancaster House, qui peuvent nous permettre d'intervenir ensemble. Donc on a une proximité avec les Britanniques, on doit avoir la proximité avec les Allemands et naturellement discuter avec les Américains. Ça ne se fait pas sur la place publique. Et donc ça, c'est une discussion. Mais de toute façon, quel que soit votre scénario, le scénario dont vous parlez, est-ce qu'on va à la négociation, est-ce qu'on va à la confrontation, dans les deux cas, il faut commencer par le rapport de force.
Attendez, le rapport de force, ça veut dire que demain soir, puisque Vladimir Poutine a dit publiquement, nous sommes prêts. Est-ce que le président de la République doit lui dire, monsieur le président Poutine, si vous êtes prêts, nous aussi ?
Non. Je trouve que non.
Je aller aussi loin.
Parce que là, c'est du rapport de force.
D'abord, en l'occurrence, c'est Poutine qui a le mauvais rôle. Donc, autant le lui laisser. Mm-hmm. Et puis, je répète, en matière de dissuasion, surtout quand on est dans la situation de la France, c'est-à-dire dissuasion nucléaire, mais on n'a pas les moyens ni des États-Unis ni de la Russie. Bon, quand on est dans on a des moyens plus importants que la plupart des pays, y compris de la plupart des pays européens, mais il faut pas raconter qu'on est à égalité.
C'est pas un rapport de force. Si c'était ce scénario-là, ce serait l'expression d'une solitude. Ce qui est le contraire du rapport de force.
Et donc,
ce qu'il faut qu'on exprime aujourd'hui, c'est une puissance au moins européenne élargie aux Grande-Bretagne.
Et atlantique.
Et atlantique.
Et le moins mauvais des scénarios imaginables aujourd'hui, je parle des scénarios réalistes, le moins mauvais serait que cette année ou l'année prochaine, les deux protagonistes se rendent compte que aucun des deux n'est en mesure d'obtenir une victoire nette. Et que dans ces conditions, il faut discuter.
Et des négociations qui peuvent durer d'ailleurs des années.
Ah oui. Et qui peuvent, qui peuvent commencer par des suspensions d'armes ou déjà empêcher de massacrer les gens.
Mais vous qui avez rencontré le président Poutine, on dit souvent qu'il n'y a que le rapport de force qui peut fonctionner avec lui.
Mais dans la politique étrangère, il n'y a que le rapport de force. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas un monde de bisounours. Les Chinois roulent pour la Chine, les Américains pour le dollar.
Mais qu'est-ce qu'on met dans le rapport de force ?
L'alliance franco-allemande, c'est-à-dire l'alliance européenne. et l'entente alliance avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est tous les quatre au moins d'accord pour avoir la même réaction.
Et la difficulté de la situation actuelle, c'est que jamais depuis le couple de Georges Pompidou et de Willy Brandt, les relations entre le président français et le chancelier allemand n'ont été aussi mauvaises.
Ouais. Ajoutons Giscard Schmitt.
Et que bah, c'est à l'opposé de Giscard Schmitt, qui s'entendait idéalement. Ouais. Alors que Pompidou Brandt, il ne se comprenait pas, il ne se parlait pas, il ne s'aimait pas, il ne voulait pas la même chose. Et là, on est malheureusement dans une situation
Pourquoi ça ne va pas bien entre les deux pays? Parce que ça a toujours été quand même l'idée de la continuité, c'était qu'on s'entend bien avec les Allemands.
La tentation, c'est toujours de dire c'est la faute de l'autre.
Oui.
C'est vrai que le chancelier Scholz est dans une situation de politique intérieure extraordinairement difficile.
Une économie difficile.
Donc, que sa politique étrangère, c'est pas lui qui, en fait, peut vraiment la déterminer. Et que lui, en ce qui le concerne, ça n'est pas vrai de ses partenaires dans sa coalition. Ça n'est pas vrai des écologistes, ça n'est pas vrai des libéraux. Mais lui, sa tradition à lui, c'est la tradition pacifiste de Willy Brandt, justement. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il a eu si longtemps des illusions vis-à-vis des intentions de Poutine.
Les Allemands, quand même, ils avaient un trépied qui faisait leur force, c'était le gaz russe, c'était le marché chinois, et c'était l'industrie automobile des moteurs. Et donc, sur ces trois points forts les fragilisent beaucoup. Et ils sont aujourd'hui inquiets. Et quand on est
inquiet,
on est nerveux. Il y a vraiment une crise en Allemagne très importante, avec une situation politique dans la coalition qui n'est pas bonne. Donc nous, on n'a pas une bonne situation politique non plus avec une majorité relative. Donc les choses sont difficiles.
Les Américains sont dans une situation politique qui n'est pas plus mauvaise que la nôtre.
Mais aller dans ce cas-là, avec une position solitaire, ce serait très dangereux.
C'est ça la force du dictateur, si on peut appeler Poutine dictateur.
On peut.
Il va être élu, ce sera son cinquième mandat. Hein.
Oui, bon,
on va élu. C'est que lui, il a le temps pour lui, il sait qu'il ne sera jamais renversé, enfin a priori.
Sauf ce qui s'est déjà produit dans l'histoire de la Russie, y compris récente, sauf une forme de putsch. Hein.
Oui, bah, on a beaucoup parié sur ça au début, on en parle beaucoup moins maintenant.
De l'Assemblée renforce la position de Macron.
Oui.
Inversement, parce que dans une démocratie, quand vous avez le soutien populaire, ça veut dire quelque chose. Oui.
Et justement, parce que Alain, vous faisiez allusion sur, vous parliez de la dissuasion. Vous disiez la dissuasion, c'est l'ambiguïté et la discrétion aussi.
Oui. Oui.
Là, il est pas discret, Vladimir Poutine. Quand il dit nous sommes prêts. Est-ce que c'est un signe de force ou de faiblesse finalement?
Là, c'est un signe d'escalade. Enfin, il emploie le mot nucléaire. C'est pas neutre. Hein.
C'est
quand même
ce qu'il faut garder de faire.
Il l'évoque comme ça dans son interview. C'est à coup sûr, il se satisfait d'une certaine manière de l'escalade. Mm. Donc, en tout cas,
ça l'arrange.
C'est pas notre jeu. En tout cas, de mon point de vue, ça ne peut pas être notre jeu tant que nous n'avons pas une alliance solide.
Donc, on ne peut pas être sur terrain de l'escalade.
Et le problème, c'est évidemment au milieu de ça, l'élection américaine en novembre. Si c'est Trump qui l'emporte. C'est vrai que, alors là, pour le coup, l'Europe aura vraiment besoin d'être totalement solidaire pour conserver des cartes dans cette histoire-là. Parce que Trump se moque éperdument de la solidarité avec les Européens.
Ça sera une chance pour l'Europe de se consolider.
Une chance dans une situation qu'il faudrait essayer d'éviter.
Comment on peut y arriver sans les Américains, c'est la question.
À partir du moment où les Américains ne soutiendraient plus l'OTAN, l'armée de la défense européenne devient en effet quelque chose de plus important. Mais je crois que dans ce contexte-là, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas diviser l'Europe. Et ce qui est vraiment tragique dans cette affaire ukrainienne, forcément et nécessairement, le président a raison, il faut être solidaire avec les Ukrainiens, mais il ne faut pas se laisser gangréner par ce virus. Le seul virus qui, en politique, tue vraiment, c'est la division. Et l'Union européenne est en train de se diviser.
Oui, mais demain,
il faudrait que l'Europe parvienne à faire de une industrie européenne de l'armement,
absolument,
non seulement une priorité, mais quelque chose de crucial et d'immédiat.
Mais à 27, à combien?
Avec tous ceux qui seront partants, mais cela dit,
les pays de l'Est sont
très partants. Dans l'ensemble de l'Europe, il y a plutôt quand même un mouvement de solidarité.
Et quand un pays européen a peur de la guerre, il appelle les Américains. plus ils sont proches de la Russie, plus ils sont maintenant proches des Américains. Ils ont voulu rentrer dans l'OTAN, la Finlande, les Suédois qui étaient aujourd'hui à l'extérieur de tout ça. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette pression. Nous, il faut faire la pression sur la défense européenne. Donc, je pense qu'il y a des choses à discuter aujourd'hui avec les Allemands qui ne se limitent plus à l'industrie automobile, à l'énergie et notamment à la question du nucléaire, mais qui sont aujourd'hui sont la question de la sécurité européenne. Et donc, le dialogue avec les Allemands est un dialogue qui doit changer de nature. C'est pour ça qu'il n'est pas désespérant de vouloir s'entendre avec eux sur ce sujet extrêmement grave.
C'est pour ça aussi que pour une industrie de l'armement dont on a besoin, dont les Européens ont besoin, il faut beaucoup d'argent très vite. À un moment, on n'a pas beaucoup d'argent.
Mais les Allemands ont annoncé des investissements assez forts.
De 100 milliards.
Voilà, à condition et nous, que ce soit vraiment pour une industrie de défense européenne.
Un mot sur l'opinion publique, européenne d'ailleurs, qui semble se lasser quand même de ce qui se passe. Et alors en France, on dit les 3 milliards, c'est bien, mais il faut en même temps faire des économies. Donc, a-t-on les moyens de continuer à soutenir financièrement l'Ukraine? J'ai vu les sondages en Allemagne. Des Allemands commencent à regretter l'aide apportée par l'Allemagne, qui est en récession à l'Ukraine. Ça joue pour Poutine, ça.
Évidemment, la durée et les sacrifices que ça implique, les populations, comme c'est légitime, s'inquiètent de plus en plus. Et surtout,
et puis on a vu les conséquences économiques aussi.
C'est ce que j'allais dire. Quand on est dans la situation dans laquelle on est, et toute l'Europe y est, hein, et les Allemands, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, pour d'autres raisons que nous, mais autant que nous. Donc, quand on est dans ces situations-là, les peuples, évidemment, se disent, est-ce qu'on nous fait passer derrière l'assistance à l'Ukraine? Or, l'assistance à l'Ukraine.
Il faut vraiment sauver l'Ukraine.
L'assistance à l'Ukraine, c'est évidemment notre intérêt absolu pour les Européens.
Il faut qu'Emmanuel Macron le rappelle.
Ça, j'imagine que ça sera le cas. Ça ne veut pas dire que les opinions ne se lasseront pas. Et c'est évident que Poutine parie aussi là-dessus, bien sûr. Parce que en Russie, si l'opinion se lasse, l'opinion, on l'exécute. En Europe,
alors, non. Ce sujet sur lequel il faudra réfléchir quand même pour l'avenir, c'est que si, et comme nous le savons déjà, M. Poutine est élu, ça veut dire quand même que les sanctions que nous avions décidées, que l'Europe avait décidées, ont peu d'efficacité. Il faudra réfléchir sur ces questions-là, parce que
particulier quand on a été tellement imprévisible en ce qui concerne le gaz russe, et notamment les Allemands.
Absolument.